Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Après les propos très commentés de Lionel Trouillot sur la violence faite aux femmes en Haïti, émission que vous pouvez écouter en podcast, aujourd'hui, deux grands auteurs français et une séquence livre de poche spéciale Liban. Voici le sommaire de cette émission.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et dans un instant, nous irons à l'Académie française pour l'élection du secrétaire perpétuel de l'Académie qui s'est jouée entre Jean-Christophe Ruffin et Amin Mahalouf jeudi après-midi. Nous allons vous raconter les coulisses de cette succession à Hélène Carrère-Dancausse. C'est un roman court d'une intensité absolue. François Bégodeau a essayé de raconter la vie et l'amour sur 4 décennies. Une fresque express sublimée par un style étonnant de concision et de rythme. Nous verrons ce qu'en pensent nos libraires tout à l'heure. Agnès de Sarthe fait aussi son retour avec un roman sur l'âge, la vieillesse et le temps qui passe. Bonjour Agnès de Sarthe.
Bonjour Emmanuel Kérad.
L'âge, ça vous préoccupe vraiment ?
Mais non, pas du tout.
Vous vous sentez âgée ou pas ?
Non, je me sens comme une petite fille, parfois comme une petite vieille, ça dépend des jours.
Ça dépend des jours, c'est bien. On parlera de ce livre tout à l'heure avec vous. Et puis une séquence livre de poche avec les auteurs libanais Sharif Majdalani et Sabil Roussoub au moment même où se déroule ce week-end le Salon du Livre de Beyrouth. Et on commence avec l'actualité francophone de la semaine. Ce jeudi après-midi, le secrétaire perpétuel de l'Académie française a été désigné par les académiciens suite au décès cet été d'Hélène Carrère-Dancausse. C'est Amin Mahalouf qui a été désigné face à Jean-Christophe Ruffin. Ils étaient 2 seulement à postuler. C'est un ami de la librairie francophone qui est avec nous pour réagir à cette élection. Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez candidaté à la dernière minute alors qu'Amin Mahalouf était le seul candidat. Vous aviez dit d'ailleurs ne pas vouloir y aller face à cet ami de 30 ans. Je cite, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?
Bah, en fait, l'idée qui m'a frappé à un moment donné, si vous voulez, c'est que pour une élection, il ne me semble pas convenable qu'il n'y ait pas un choix. Voilà, et je voulais proposer un choix, et je l'ai toujours dit. Dans ma lettre de candidature, je l'ai souligné, ce n'est pas une rivalité, c'est un choix entre 2 personnalités, 2 parcours, voilà, mais qui n'est pas du tout, ce n'est pas un combat, si vous voulez.
Alors beaucoup se sont posé la question, vous avez fait l'actualité cette semaine, tout le monde s'est demandé pourquoi vous partiez, comme vous dites, au combat, même si ce n'en est pas un, vous le précisez, avec un ami de 30 ans, parce que on connaît votre intégrité, on connaît votre loyauté, moi je peux en témoigner personnellement, mais on peut se poser la question d'une ambition. Était-elle là l'ambition ?
Non, il n'y avait pas d'ambition. Il y avait, si vous voulez, on est dans une période très importante pour l'Académie parce qu'il y a des échéances. Mmh. Ça a été la fin de la 9e édition du dictionnaire. Il va falloir faire des choix pour l'avenir. C'est une période aussi où il y a de nouvelles institutions comme le Centre international de la langue française de Villers-Cotterêts. C'est une période aussi de renouvellement général dans l'espace francophone. Donc, il me semble que c'était une matière à débat. Voilà. Et mon idée n'est pas du tout l'idée d'occuper un poste ou de le ravir à qui que ce soit, mais d'entamer une sorte de dialogue et d'avoir un véritable choix.
Donc le dialogue s'est produit, évidemment, pendant l'élection. Comment ça se passe, une élection comme celle-ci, dans les coulisses ? Est-ce que vous comptez les voix avant l'élection pour reconnaître les chances de chacun ? Comment vous faites ?
Non, on peut, si on veut, mais ce n'était pas vraiment mon idée. Moi, j'ai vraiment fait une candidature plutôt de témoignage, je dirais presque d'honneur, si vous voulez, qui d'ailleurs, je crois, a posteriori légitime l'élection d'Amin, parce que c'est toujours mieux d'avoir été élu dans des conditions normales, c'est-à-dire avec un véritable choix, que d'être seul candidat, comme dans une république bananière, si vous voulez. Voilà.
Mais vous savez qui a voté pour vous, qui a voté contre ? Alors, il y avait 35 votants, hein, 24 pour Amin Mahalouf, 8 pour vous, Jean-Christophe Ruffin. C'est à main levée, c'est secret, vous connaissez vos adversaires, vos partisans ?
Non, c'est pas à main levée, non, mais... On connaît ses amis, on espère toujours en avoir plus, évidemment. Mmh. Il se trouve qu'on en partage beaucoup, c'est-à-dire que les amis d'Amin et les miens sont un peu les mêmes. Donc, il avait fait une campagne beaucoup plus longue, il est candidat depuis, au fond, beaucoup plus longtemps. Il a été tout cet été, depuis la mort d'Hélène Carrère-Dancausse, mis en avant. Donc, forcément, il avait là-dessus un avantage. Et moi, j'ai jamais espérer le combler.
Amin Maalouf, franco-libanais très aimé à travers la francophonie, adoré au Québec. C'est une personnalité qui peut poursuivre ce chemin de l'Académie française vers sa promotion, vers sa reconnaissance internationale, un peu sur les traces des engagements d'Hélène Carrère-Dancausse, vous le pensez, vous, Jean-Christophe ?
Oui, le peu, mais je pense que ce sera très différent parce que Amin, c'est quand même un romancier, donc quelqu'un qui a besoin de préserver son imaginaire. Le fait d'occuper une fonction comme celle-là, c'est vraiment un sacrifice, si vous voulez. Moi, c'est aussi une raison pour laquelle j'ai hésité, parce que je pense que ça va changer complètement sa vie. Alors, s'il veut vraiment s'engager dans cette fonction, et je pense qu'il le fera, ben, ça va forcément l'obliger à des sacrifices personnels, c'est certain.
De voyage notamment, vous êtes un grand voyageur, la montagne que vous adorez. C'est vrai que quand j'ai vu votre candidature, j'ai pensé à vous. Je me suis dit comment il va faire, parce que c'est un vrai rôle. Hein.
Oui, ben parce que j'avais peu de chance. Donc, mais c'est vrai que finalement, après le vote, je me dis je l'ai échappé belle. Et je vais pouvoir en effet continuer à vivre comme j'aime le faire. Et je dirais pas que je plains Amine, mais je sais ce que ça va lui coûter. Hein. Je veux dire, c'est un véritable sacrifice et je pense que ça sera un peu au préjudice de ses livres.
Bon, merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin d'avoir accepté de réagir dans la librairie francophone à la sortie de cette séance, car nous enregistrons cette séquence ce jeudi et vous venez tout juste de finir cette session à l'Académie française. Merci pour votre fidélité et votre confiance Jean-Christophe, à bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir. Et vous entendrez Amin Maalouf très prochainement dans ses nouvelles fonctions. Ici même, nous nous entretiendrons avec lui quand l'agitation sera retombée autour de cette élection importante pour la francophonie. On rejoint tout de suite nos libraires. Bonjour Alexandre Dimitrievitch.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Genève, dans la librairie Delphica. Josiane Letourneau est libraire à Montréal, dans la librairie Pauline. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Pour la Belgique, Déborah Damblon est là, libraire dans la librairie Le Public à Bruxelles. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Toujours en forme ?
Ben, évidemment. Avec vous toujours.
Évidemment. Pour la France, on retrouve Mathieu Colombe de la librairie Goulard à Aix-en-Provence. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez un magnifique t-shirt avec un... C'est quoi ? C'est un buffle ? C'est quoi ?
C'est un masque d'Anya, cher ami.
Très bien. Un masque de ?
Anya.
Anya, c'est ?
Un personnage de la mythologie japonaise.
Très bien, merci. Merci Mathieu pour ces détails. Merci d'être avec nous, vous interviendrez tout au long de cette émission. Voici notre premier invité sur la musique de Michel Polnareff. Et bonjour François Bégodeau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur cette musique de Michel Polnareff que vous citez dans votre livre qui incarne une sorte d'humanisme aussi dans ce récit. C'est votre grand retour avec un roman très court, très commenté dans la presse. Vous allez peut-être déstabiliser des lecteurs avec cette fulgurance littéraire. C'est une performance dans l'écriture, nous allons y revenir. Pourtant le sujet est très simple, vous racontez la vie sur 4 décennies. L'amour, c'est le titre. C'est quoi l'amour dans la vie François ?
Je ne sais pas ce que c'est dans la vie, mais il m'a semblé observer autour de moi que l'amour était souvent vécu de cette façon-là, quoi. C'est-à-dire pas exactement la façon romanesque dont on a tendance à le raconter dans les romans ou au cinéma. Il arrive assez souvent que finalement l'amour soit vécu comme quelque chose qui dure, comme un long fleuve tranquille, sans trop d'aspérité, sans trop de drame. C'était à cette modalité-là de l'amour que j'avais envie de rendre justice.
Bon, en tout cas, tout va très vite dans ce roman, François. Il y a Jeanne, une jeune fille fascinée par un joueur de basket du club de sa ville en France. Elle en rêve de cet homme-là. Elle le fantasme, mais elle fera une autre rencontre dans la simplicité d'un moment partagé avec un garçon plus banal, dirons-nous. C'est ça aussi la vie, l'inattendu.
Ouais, l'inattendu. Et puis, l'idée qu'il y a quand même beaucoup de couples, y compris des couples qui sont voués à rester très longtemps ensemble, qui se rencontrent sans qu'il y ait véritablement rencontre. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place dans les 10 ou 20 ou 30 premières pages. C'est-à-dire que Jacques apparaît dans la vie de Jeanne à bas bruit. Quoi. Elle le remarque même pas la première fois. Oui. Elle le remarque à peine la seconde fois, enfin la deuxième. La troisième, il commence un peu à se repérer. Puis, de fil en aiguille, il y a du désir qui monte. Et puis, de fil en aiguille, ils vont se retrouver un couple. Quoi. Mmh. Mais il n'y a pas de moment comme ça, de moment clé, de moment initial ou inaugural, comme il peut y avoir parfois dans la vie, puis souvent dans le roman, à savoir ce fut comme une apparition.
Oui. Là, ça se fait pas un peu naturellement. Ouais, pour
ça. Ça se fait comme au fil de la
vie.
Oui,
c'est ça, au fil de l'eau. Elle n'aura jamais d'aventure avec ce basketteur de 2 mètres nommé Pietro. Elle assiste même à ses relations intimes avec une femme russe parce qu'il fréquente un hôtel dans lequel elle travaille. Donc c'est une vraie frustration pour elle, c'est difficile au départ.
Oui, c'est un sort, c'est la cruauté du destin, enfin en tout cas la cruauté d'une situation. Personne n'est cruel dans cette affaire, mais disons la situation elle-même est cruelle. Elle travaille dans cet hôtel et lui fréquente cet hôtel, disons, pour sa petite relation adultère avec la femme du vétérinaire, ce qui est un truc un peu, de France moyenne ou de France de province. Elle va un peu l'aider, ce qui est une sorte de perversité du destin.
La double peine,
elle va s'en remettre.
Vous parlez de province?
La province est une espèce de région très vaste.
Non mais je veux dire, vous parlez de cet aspect provincial, mais ça existe dans les capitales, ça existe partout, l'adultère, comme vous le décrivez. Ouais, pourquoi est-ce que vous pointez sur la province absolument ?
Disons que là, ce que je trouvais un peu provincial, c'était lié au format du bourg. Mmh. C'était, on est dans un petit bourg, je sais pas, de 10 000 habitants, dans le Choletais, dans les années 70, donc tout se sait. On sait très bien que dans les grandes villes, peut-être pas
dans un quartier, tout se sait, François Bégaudeau, c'est condescendant ce que vous dites.
Dans le mien, pas vraiment, mais non, mais d'ailleurs, ça a été beaucoup dit par des gens qui ont connu la campagne, comme c'est mon cas d'ailleurs, puis après ont connu la grande ville, et quand même, la grande ville, avec tous ses défauts, on peut quand même y gagner un certain anonymat.
Bon, cette histoire est a priori banale, François, presque lisse, avec toutefois toutes les aspérités de la vie. Vous avez choisi un exemple normé. Et là, on se dit que ce n'est pas vraiment une histoire d'amour que vous racontez, c'est un chemin de vie universel. Des années 70, aux années 2000, tous les détails de cette époque sont décrits. Ça pourrait être notre histoire, la vôtre, celle de ceux qui nous écoutent.
D'ailleurs, je me suis amusé. En fait, ils traversent 5 décennies ensemble. Oui. Et il se trouve que j'ai à peu près 5 décennies moi-même.
Oui, c'est ça.
Le roman commence avec ma date de naissance. Donc, je connais bien ces années-là, effectivement. Et donc, j'ai pas eu beaucoup de mal à fournir de la documentation puisque je l'avais engrangé moi-même dans ma propre vie. Donc oui, je pense que, je vois bien que depuis que le livre est sorti, il semblerait que pas mal de gens s'y retrouvent. Un cachet ou un fumet de certaines époques, les 70, 80, 90, et puis 2000 éventuellement. Et puis aussi, le fumet d'une certaine région, alors qu'on ne va pas appeler la province, mais qu'on va appeler, disons, la France des moyennes villes. Moi, je pense que je préfère l'appeler comme ça. Qu'on a appelé par la suite France périphérique, d'un nom un peu de sociologie discutable, mais intéressant quand même. Quoi.
En tout cas, la force de ce livre, François, réside dans l'écriture et le style. En une phrase, une seule phrase, vous nous faites faire un bond en avant dans le temps. Du coup, ça va vite, vous racontez juste l'essentiel. La naissance d'un enfant en quelques mots, une année en 2 phrases, chaque phrase compte dans votre récit.
C'est-à-dire que moi déjà je suis un petit peu un fétichiste du style et de la phrase en général, mais alors je veux dire, je savais bien que ce livre serait court, ce livre est assez court, il fait 90 pages, donc là c'était quand même le moment ou jamais de fignoler chaque phrase. Quoi.
Mais c'est très fignolé, c'est très rare de lire ça, François, vraiment, moi j'ai été épaté, je vous le dis, parce que
je vous remercie.
Vous avez écrit une sorte de partition sur la vie, tout est rythmé, tout est musical, il n'y a pas de mots, de descriptions inutiles.
Oui, c'est ça, c'est très à sec, quoi. Bon, de toute façon, mon style est plutôt sec en général, mais là, il l'est a fortiori, parce qu'effectivement, j'avais à raconter, disons, quand même beaucoup de choses, à embrasser beaucoup d'années en très très peu de pages. Donc, mécaniquement, ça produit de l'ellipse. Oui. Et mécaniquement, ça produit une sorte de d'épure du style, en tout cas, de simplicité au moins apparente. Ça veut pas dire que, il y a zéro travail, comme on sait. Je veux dire, la simplicité, c'est du boulot.
Non, mais là, on le sent pour le coup. Et c'est moins sec que vos précédents, paradoxalement, par rapport à ce que vous dites. Moi, je trouve que c'est moins sec. Pourtant, il y a moins de pages, c'est plus concis. Bon, on va voir du côté de nos libraires ce qu'ils en ont pensé.
Oui.
Parce que, évidemment, c'est un livre qui peut faire débat, dans sa forme comme dans le fond, avec l'histoire. On commence avec le Canada, Josiane Letourneau.
En fait, moi, lorsque j'ai terminé de lire la dernière page de votre livre, François Bégaudeau, je me suis dit que je l'offrirais bien à tous ceux et celles qui croient ou ont encore envie de risquer l'amour dans la durée, parce que vous l'avez parfaitement raconté. Cet amour qui naît parfois sans que l'on s'en aperçoive et qui finit par être un choix, en fait. C'est un tout petit livre, finalement, mais c'est tout simplement un trésor de sincérité et de sensibilité.
Déborah Damblon pour la Belgique, êtes-vous d'accord?
Ben oui, parce que comment peut-on raconter une longue et belle histoire en seulement quelques pages? Eh bien, Monsieur Bégaudeau, à l'évidence, avec votre talent et votre langue, avec votre sens des mots, parce que c'est pas que les phrases, c'est il y a pas un mot inutile. Ouais. Avec votre sens des expressions, des raccourcis, vous avez le don de nous faire percevoir les situations et les sentiments sans les raconter en détail. C'est fort, c'est doux, c'est juste. Vous faites de l'ellipse à travers des tout petits détails, c'est extraordinaire.
Tout à fait d'accord. J'ai pas trop l'habitude de donner mon avis dans cette émission, mais là, je suis tout à fait d'accord. François, franchement, incroyable. On va voir du côté de la Suisse, Alexandre Dimitrievitch. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Comment ça se passe, vous?
Au risque de vous répéter, c'est vrai que j'ai trouvé cette écriture habile, dans la mesure où elle ramasse le temps en quelques pages. La naissance succède tout de suite au mariage et l'ellipse, elle est très bien employée tout au long du livre. Vous dressez en quelques pages, et c'est le coup de maître de votre livre, le portrait d'une époque un peu terne, mais un peu tendre aussi, en appuyant là où ça fait mal. Nous ne sommes pas plus intéressants que quelqu'un d'autre.
Ah, François, vous êtes très ému, hein, j'ai l'impression.
On est très ému, je sais pas, mais en tout cas, c'est toujours touchant d'entendre ça. On a l'impression d'avoir fait un peu du bon travail, quoi, comme dirait un artisan, quoi, juste du bon travail. Disons, ce que j'ai essayé peut-être de systématiser encore plus que dans mes livres précédents, c'est de tenir le pari du fait que plus vous retranchez l'expression explicite de l'émotion, et plus vous en créez.
Oui, c'est ça. Et quand on vous reproche, parce qu'on l'a fait souvent, on va le faire sur ce livre forcément, de faire une ethnologie des classes moyennes avec une pointe de misérabilisme, qu'est-ce que vous répondez? Que vous prenez un modèle neutre, justement, pour le rendre universel?
Moi, je pense que dans tous mes livres, dans beaucoup de mes livres, apparaît, le sentiment qui m'a jamais quitté depuis que j'ai été enraciné dans les milieux populaires. Il y a une puissance propre des classes populaires. Donc moi, je me sens très très loin du misérabilisme ou de la condescendance ou que sais-je. Je pense que ces vies-là me paraissent extrêmement puissantes, alors qu'en général, elles font pas beaucoup de bruit, quoi. Elles manifestent pas beaucoup leur puissance, quoi. C'est pas des gens très ostentatoires, pas du tout. Et c'est ça qui les rend particulièrement émouvants. Et je pense qu'il y a quelque chose. Bon, au bout du compte, moi, je pense que comment dire, il n'y a pas de misérabilisme dans la mesure où je leur attribue pratiquement par un acte de foi de ma part, l'amour. Ces gens-là sont doués d'amour, tout simplement. Alors, je veux dire, on ne peut pas leur rendre un meilleur hommage.
Et la façon de concevoir ces liens familiaux aussi, que vous explorez magnifiquement, c'est jamais simple, hein, ça, les liens familiaux. On en parlera avec Agnès Dessart tout à l'heure. Par exemple, il y a Daniel, le fils de ce couple dont vous racontez l'histoire, qui confiera d'abord à sa marraine ses soucis. Sa marraine est importante dans sa vie. Et vous montrez comment on se construit des repères en grandissant.
Je pense que la famille, c'est quelque chose sur lequel on pourrait discuter longtemps idéologiquement, dans quelle mesure, et est-ce qu'on trouve que c'est une institution dépassée, dépassable. Ça, c'est des débats qui pourraient m'intéresser par ailleurs. En l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de montrer que, a fortiori dans les classes populaires, souvent le lien familial est un peu la seule richesse à disposition. C'est-à-dire que ça se voit très très bien dans les familles qui ont peu de choses. Ils ont au moins ça pour eux. Ils ont au moins les liens qu'ils peuvent tisser entre eux, cousins, parents, oncles, tantes, et pourquoi pas marraines. Et ça développe, je pense, une sorte de sécurité matérielle, là où il n'y en a pas en fait.
Bon, j'ai beaucoup hésité à lire un passage, mais ce serait trop réducteur, je trouve, parce que tout se tient. La dernière page est magnifique, je vais laisser le lecteur découvrir. Juste une dernière question, François, vous êtes fier de ce roman?
Moi, j'ai un petit problème avec la notion de fierté, mais je vais pas chipoter, je vais pas tergiverser.
Allez-y, répondez franchement, pour une fois, allez-y, sur ce sujet-là.
Je pense que parfois, quand on termine un roman, on est toujours un peu satisfait quand même, puisque sinon on le publierait pas.
Oui, oui.
Donc on va pas faire semblant, on va pas faire de la fausse modestie en disant non, je publie mais j'aime pas. Mais c'est vrai qu'il y a des livres avec lesquels on se sent en plus ou moins grande amitié. Celui-là est plutôt un livre ami. C'est pas un livre auquel je pense en me crispant, parce qu'il y a des livres auxquels je pense que je peux aimer, hein, mais qui me crispent un peu. Celui-là me crispe pas.
Entre les murs, vous aviez ressenti ça aussi?
Entre les murs me laisse un goût un petit peu amer quand même.
Ah bon?
Oui. De son, moi, il y a très très peu de livres que j'ai fait qui me laissent pas un petit goût d'inachevé. Non, entre les murs, je trouve, il y avait des trucs que j'aimais bien vraiment. Notamment la platitude, ou disons l'objectivité de la narration, ça je trouvais que c'était intéressant. Après, je trouve que c'est quand même un livre assez faible sur l'école, en fait. Mais je vous dis ça 15 ans plus tard.
Oui. Les révélations de François
Bégaudeau. Je trouve que le sujet école méritait sans doute un livre un peu plus épais que ça. Enfin, je trouve ça un petit peu faible.
On vous l'a reproché, ça, à Cannes, hein, d'ailleurs. On a reproché au film d'être un peu faible.
Ah oui, oui, le film, oui, mais enfin, le film, ça, c'est à la rigueur, je m'en sens pas vraiment le garant.
Bah, hein. Vous avez joué dedans, quand même.
Oui, mais c'est pas moi qui ai fait le montage.
Ouais, bah, d'accord.
Ah, bah, non, quand même. Non, mais c'est pas la même chose. Alors que le livre, je peux en assumer, enfin, en tout cas, je dois en répondre de toutes les lignes. Et c'est plus compliqué.
Merci beaucoup, François Bigaudeau. Merci d'être revenu dans la librairie francophone. Vous allez rester avec nous. L'amour est paru aux éditions Verticales. Et si vous êtes né pendant ou avant les années 80, vous allez y retrouver une partie de votre vie. Merci beaucoup François. Dans un instant, des écrivains libanais, la chronique de nos libraires. Mais avant, on écoute un souvenir musical signé du collectif Paris Bamako en 2006 avec Amadou et Mariam, M, Tikenja Fakoli et le Canadien Kenan, entre autres. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Si blanc, tout n'est pas si noir. Ce serait trop facile de croire à cette histoire. Tu n'es pas si blanc, tu n'es pas si noir. Mon cœur a la même couleur dans ton regard.
The dread keeps fucking, the system and bucking them down like nothing. And so we unite, Barry to Bamako, universal fight. If you causing strife in the name of right, you are neither black, you are neither white. Hitting on the dusty for philosophers, stay right.
Barry Bamako, Barry Bamako, rencontre le tissage, c'est le bonheur.
Et y'en a marre des rues de Paris. C'est sens interdit, j'ai compris trop de choses, des connaissances interdites. Le froid tire tes orteils, ça klaxonne dans l'oreiller. Les gens se suivent pas les jours ensoleillés. Je suis plus loin que l'espoir, même de l'autre côté. Mes pages ont plus de sens qu'un carrefour, écoutez.
Nous allons vous raconter une histoire. Des rencontres entre des gens pour aider.
En ombre à Paris, on à Bamako.
Vive la solidarité entre tous les peuples.
Chacun de nous vaut un trio. Prix Nobel, Pacifique, discours, c'est du sirop. Tentez de chanter pour changer le monde.
Le collectif Paris Bamako avec C'est le bonheur.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute Genève-Lausanne, on compte une demi-heure de retard entre Aubonne et Morges-Ouest en direction de Lausanne à la suite d'un accident.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires, première partie. Tiens, un coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon.
Ben oui, des fois, Emmanuel, je peux quand même pas ronchonner tout le temps. Hein.
C'est ça. Allez-y.
Je sais que vous adorez quand je ronchonne, mais bon. Oui, oui. Ici, je vais vous dire que j'adore Laurence Vielle. Laurence Vielle, c'est une de nos poétesses nationales. Et ici, il y a Billet doux, D'U, son nouveau recueil qui vient de sortir. Parce que j'adore son univers. C'est à la fois quotidien, poétique, entré, déjanté, foutraque. Et personne comme elle ne nous montre combien la poésie est contemporaine, accessible et vivante. Alors, mais faites-vous plaisir, lisez-la. Offrez-la, allez l'écouter sur scène et si vous pouvez pas, lisez ces textes à haute voix, ils sont faits pour ça. Vous allez voir, ce n'est que du bonheur.
Parfait. Première anthologie de Laurence Vielle aux éditions Castor Astral. Merci Déborah. Un coup de gueule en France, Mathieu Colombe. Allez-y, vous me faites peur.
Alors non, mais je vais me faire un plaisir, parce que ça fait un moment que ça me...
Allez, vite, vite quand même.
Alors en ce moment, donc c'est la rentrée littéraire, couplé à la rentrée littéraire, on a la rentrée universitaire, donc on est noyé sous les livres. Et évidemment, c'est aussi le moment où, comme tous les ans, on reçoit des palettes de bouquins écrits par des politiques.
Oui.
Alors en fait, bon, outre le fait que la plupart du temps, c'est pas forcément eux qui les écrivent, déjà c'est très agréable. Ensuite,
ça n'engage que vous parce que certains les écrivent. Hein.
Mais allez-y. Oui, certains, j'ai pas dit que tout le monde. Bon, voilà. Et en plus, on a vraiment pas le temps de s'en occuper parce qu'on a tout le reste, puisque le brouillon politique est en sciences humaines, donc fatalement, il y a la rentrée universitaire. Mm-hmm. Donc ça fait des bouquins dont on sait pas vraiment quoi faire. Les très gros partent, les autres, bon bah voilà. On en fait ce qu'on en peut.
Non, mais c'est quoi le problème?
C'est inutile. Bah, le problème, c'est qu'en fait, bah, il devrait faire soit une rentrée politique et on met ça à un moment où on a de quoi faire, mais en tous les cas, là, on n'a pas le temps de s'en occuper. Et en plus, on est des librairies, on n'est pas forcément des espaces de communication pour les partis politiques.
Bon, ça fonctionne en tout cas. Il y a un livre politique qui fonctionne. Lequel, par exemple?
Celui, alors chez moi, celui de Nicolas Sarkozy, ouais, marche plutôt pas mal, par exemple. Ouais.
Je voulais vous entendre dire ça. Merci Mathieu.
Avec plaisir.
Ce week-end se tient le Salon du Livre de Beyrouth avec 70 auteurs francophones. 14 villes du Liban sont associées à l'événement pour faire écho à ce salon dont nous avions longuement parlé l'an passé avec des séquences spéciales. Je vous propose d'entendre deux grands écrivains libanais qui publient leur roman en poche en cette rentrée. On commence avec Sabil Roussoub qui a décroché l'an passé le prix Goncourt des lycéens. Et bonjour Sabil Roussoub.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans la librairie francophone depuis Beyrouth au café Librairie Barzac. Décrivez-nous cet endroit, tiens, qu'il y a autour.
Oui, c'est dans un quartier le quartier connu pour être multiculturel au Liban, à Hamra. C'est un petit café assez intimiste, un peu caché. On rentre dans un immeuble, on arrive au premier étage. C'est un café-librairie, très intimiste, avec des gens qui travaillent, des étudiants.
Bon, alors vous publiez Beyrouth sur Seine, qui a été sur la première liste du Goncourt. Vous racontez la vie de vos parents et celle de votre famille. Vous êtes né en France, mais vous avez cette obsession pour le Liban et son histoire. Et vous dites, la vie de mes parents, c'est comme la guerre du Liban. Plus je m'y plonge, moins j'y comprends quelque chose.
Effectivement, ce livre, je l'ai écrit pour deux raisons. C'était après plusieurs événements qui sont passés au Liban et surtout après la révolution de 2019 qu'il y a eu. Moi, je vivais plus au Liban à ce moment-là. Je suis venu rejoindre le mouvement et en rentrant à Paris, j'ai vite réalisé que je voulais pas écrire sur ça, mais re-raconter la vie de mes parents que je connaissais pas du tout. Je suis né en 1988. Eux sont arrivés en France en 1975. Ils sont plus jamais retournés vivre au Liban parce qu'il y a une guerre au Liban qui a duré 15 ans. Et voilà, cette guerre qui a fait que je suis né ailleurs, cette guerre qui a exilé mes parents, j'ai toujours eu aussi envie de la raconter. Donc je suis allé m'entretenir avec eux pendant de longues heures pour raconter leur exil, la guerre du Liban, et est-ce que ça a été pour eux de vivre loin de leurs parents, loin de leurs proches, loin de leur pays pendant ces années-là.
Alors Sabil Roussoub, vous retracez comme ça toutes les douleurs de ce pays, les conflits, les frasques politiques, le conflit qui s'étend même en France avec la vague d'attentats dans les années 80. C'est-à-dire que même exilé, en fait, on continue à vivre les conflits quand on est Libanais.
Effectivement, ce qui m'a surpris quand mes parents m'ont raconté leur histoire et leur exil et leurs années à Paris, c'est que la guerre du Liban, en fait, les a rattrapés à Paris. Pendant les années 80, il y a eu énormément d'attentats qui visaient autant Paris que le territoire parisien, que aussi beaucoup de presse arabe qui était venue s'installer à Paris. Quand je dis presse arabe, c'est autant la presse libanaise que la presse irakienne que la presse syrienne. Et souvent, ils se retrouvaient, alors est-ce que c'est le hasard de la vie, est-ce que c'est une fatalité, mais au milieu de ces attentats, au milieu de ces événements-là.
Mmh. Il y a dans votre famille, en tout cas, Sabil, des oncles. Vous racontez l'histoire de toute cette famille-là, des oncles qui ont un passé trouble. Certains proches du Hezbollah, d'autres des phalangistes chrétiens. On ne sait pas tout, il semble qu'on ne veuille pas tout savoir.
Oui, c'était sur les silences de la guerre. Alors, plus que proche du Hezbollah, c'était proche des Palestiniens. Voilà, je viens d'une famille chrétienne et de part et d'autre de la famille, certains ont combattu avec les Palestiniens, certains ont combattu avec les chrétiens. Et j'avais envie de traverser cette guerre avec aussi un point de vue un peu objectif. Objectif dans ma subjectivité, mais dans le sens où je voulais accepter tout ce que les gens ont fait pendant la guerre, tout ce que les chrétiens ont fait, sans juger ni les uns ni les autres. Et en acceptant les silences, parce qu'effectivement, il y a des choses dont on ne parle pas.
Et puis, il y a cet oncle qui jouait du Chet Baker sur la ligne de démarcation, en plein conflit avec les francs-tireurs dans les immeubles alentours. On était allé d'ailleurs sur place il y a 10 ans, qui tuait ceux qui passaient cette ligne, qui est en plein centre-ville. Il jouait cette musique-là, Sabil Roussoub.
Oui, c'est Habib, c'est même, je pourrais dire, mon personnage pratiquement préféré de mon livre, qui en fait est quelqu'un qui est au début très engagé politiquement et qui va étudier en URSS, ou enfin rentrer dans des entraînements militaires, et il revient complètement désabusé, il abandonne tout pour sa musique, pour l'art, il finira par ouvrir une librairie pendant la guerre.
Ouais.
Et cette scène me semblait forte, disons qu'avec cette naïveté de croire que l'art est plus fort que tout et que l'art parfois peut rassembler les gens le temps d'un instant. Mmh. Et cette scène est comme une sorte d'apaisement dans ce pays et dans cette guerre.
Et puis il y a cette musique qu'écoutait votre mère. Féroze, Sabil Roussoub, cette musique, elle vous énervait avec votre père, dites-vous dans le livre. Je suis désolé de vous l'imposer encore aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un peu l'emblème du Liban, Féroze. Et votre maman, elle écoutait ça tout le temps à l'époque.
Oui, mais elle continue toujours à écouter ça. Ça reste même sa sonnerie de téléphone. Oui, ce qui nous énerve, c'est la nostalgie de ce fameux pays magnifique perdu.
Ouais.
Parce que la situation est telle aujourd'hui qu'au Liban, parfois on n'a pas envie d'être nostalgique d'un pays qui était bien avant. On a envie de que les choses se règlent aujourd'hui, que le pays aille mieux maintenant, en fait.
Ouais. Bon, on lui dédie du coup cette chanson. Hein, vous lui ferez écouter l'émission, ça va, Sabil ?
Oui, bien évidemment.
Le roman de Sabil Roussoub, Beyrouth sur scène, prix Goncourt des lycéens, est paru en poche aux éditions Point, un livre qu'on vous conseille fortement.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
La suite de la chronique des libraires, seconde partie, un coup de gueule au Canada, Josiane Letourneau.
Oui, je vais râler à la place de Déborah, alors je me dévoue. Pour vous dire que je suis inquiète, en fait, Emmanuel, je suis la dernière libraire à avoir râlé ces dernières années sur le prix des livres, parce que je trouve qu'il y a plein de choses plus chères que des livres. Mais là, actuellement, en fait, c'est la première rentrée où je vois, en fait, arriver des nouveautés européennes, francophones, qui ont franchi au Canada le cap des 50 $. C'est
dollar,
cher pour un livre. C'est cher pour un livre. Puis je nommerai pas des éditeurs, mais il y en a certains qui vont se reconnaître et qui, semble-t-il, ne veulent pas baisser leur prix. Alors, ben moi, je m'inquiète pour la diversité. Je m'inquiète pour les livres que je vais pouvoir proposer, que je vais pouvoir conseiller. Comment je vais faire? Emmanuel, comment je vais faire?
Et c'est 50 $ pour un roman, hein, pas pour un beau livre.
Oui, non, si c'est un beau livre, je râlerai pas, Emmanuel. Ouais. Je veux dire, on parle d'un roman.
Non, mais oui, bon, faut arrêter.
Je veux bien, là. Mais
faut vraiment arrêter. Celui de François Bégodeau, tiens, je regardais, fait 14,50 €
Non, c'est bon.
Donc ça va. Voilà, c'est maîtrisé. Il faut maîtriser le prix.
On parle de 50 $.
Non, c'est inadmissible.
Vraiment, ça
inadmissible. Ça n'a pas de sens. Merci, Josiane. Un coup de cœur en Suisse, Alexandre Dimitrievitch.
Oui, dernièrement, moi, j'ai adoré le livre Le feu et les oiseaux de l'autrice Céline Cerny. Un petit livre remarquable, ponctué par de splendides tableaux de l'artiste suisse Lynn Marquis, qui questionne notre rapport à la nature et explore l'anxiété qui nous guette lorsque l'on craint le monde qui vient. À travers des formules poétiques et des images douces que l'on n'oublie pas, ce livre vous habite encore une fois refermé. Vous l'aurez compris, j'ai passé un magnifique moment de lecture.
Ça a l'air, effectivement. Le feu et les oiseaux aux éditions Art et Fiction. Merci Alexandre. Sharif Majdalani avait publié en 2021 Dernière Oasis, un roman sombre qui met en lumière les dérives du Moyen-Orient et le chaos possible. Il vient de sortir en poche chez Babel. On l'écoute parler de son livre depuis Beyrouth. Bonjour Sharif Majdalani.
Bonjour.
On assiste à la prise de pouvoir progressive des djihadistes dans votre roman, Sharif. Autour de l'Oasis, les villes tombent une par une jusqu'à Mossoul. Vous racontez la résistance kurde et celle des yézidis, les combattants dispersés, comme ça qui tentent de sauver des parties de territoire, les bandes rivales. Rien n'est coordonné. Et du coup, les djihadistes en profitent. C'est ça le problème.
Écoutez, oui, c'est ça. Enfin, évidemment, je ne montre pas tout ça parce que je ne parle absolument pas de la situation. Je parle simplement de la manière avec laquelle
un individu vit le désastre
que cela représente. Évidemment, il entend parler des yazidis, il sait que les Kurdes sont là, il sait que les djihadistes sont arrivés, il ne voit personne. Il est comme n'importe lequel d'entre nous qui est confronté à la violence de l'histoire. Et effectivement, il voit tout ça partir en quenouille et il se rend compte que tout cela est essentiellement le fruit d'un grand désordre, d'une absence de coordination. et surtout d'un manque total d'intentionnalité. On a toujours l'impression que les événements sont voulus par les uns et les autres et que chacun élabore un plan qu'il suit, qu'il met en place. On s'aperçoit et il s'aperçoit que tout ça est absolument vain et que chacun joue une partie à l'aveugle en tâtonnant et que finalement on aboutit une fois de plus à un formidable chaos.
Ouais, les familles fuient hein, effectivement quand elles sont envahies par les djihadistes comme Abraham fuyant avec son peuple, c'est ce que vous dites aussi Sharif Majdalani, vous écrivez c'était l'Ancien Testament rejoué au 21e siècle.
Oui, c'est l'impression que ça a donné. Enfin, moi, je me souviens que quand j'ai vu les Yazidis partir, fuir comme ça, sortir d'Irak, j'ai pensé tout de suite à la sortie d'Irak d'Abraham dans la Bible, parce qu'on pense qu'Abraham est sorti aussi parce qu'il ne pouvait plus rester sur place. Et cette idée que finalement, on n'arrête pas de rejouer les mêmes histoires, les mêmes drames reviennent, et surtout, on les relie au prisme des textes anciens. On a l'impression que l'histoire se répète simplement parce qu'un événement qui est là, on le lit, on le comprend, on pense le comprendre en fonction de ce qu'on a lu dans le passé, en fonction de ce que l'histoire nous apprend, et du coup on a l'impression que l'histoire se rejoue en permanence sous nos yeux. Et alors évidemment c'est terriblement poétique et c'est désastreux et c'est faux, probablement faux, parce que rien ne se reproduit de la même manière. C'est notre façon de lire les événements simplement pour nous rassurer nous-mêmes.
Bon, vous écrivez en tout cas un passage analytique très intense, page 120, je vais en lire un extrait, Sharif Majdalani, sur la musique de Nasser Chama. Je crains que le monde entier sombre à cause de ces gens. L'humain est terriblement prévisible. Ses réactions face aux mêmes dangers, aux mêmes situations, aux mêmes calamités sont toujours identiques. Et ce ne sont jamais les bonnes, ni en tout cas jamais les meilleures. On n'apprend rien. On refait éternellement les mêmes fautes et les mêmes bêtises. Et ce que je veux dire, quand je prétends que l'Occident aussi va vers un nouveau Moyen-Âge, c'est que la réponse aux monstruosités de l'État islamique, de ses prédécesseurs et sans doute de ses successeurs, ce sera le repli de l'Occident. La réponse nationaliste, religieuse, communautaire, dont rêvent les démagogues, et qui nous fera aller vers la confrontation et vers la rupture. Face à la barbarie née ici, l'Occident répondra par la sienne propre, et nous sombrerons tous. C'est le danger, Sharif Majdalani, de tous sombrer. Ce que vous écrivez là, vous le pensez sincèrement?
Oui, je le pense sincèrement. Oui, sinon je l'aurais pas écrit, mais je le crains surtout. Je ne le pense pas, je le crains. J'ai très peur, effectivement, d'une confrontation. C'est-à-dire, j'ai surtout très peur, parce que quand on est en dehors de l'Occident, on regarde l'Occident avec envie, on regarde la démocratie fonctionner. On pense quand même d'ici que la démocratie est la chose la plus extraordinaire que l'humanité ait réussi à créer pour se gérer elle-même. Et la voir ainsi livrée à des démagogues, et surtout la peur de la voir soudain se braquer, l'Occident, les démocraties se braquer face à un danger extérieur et se replier et du coup devenir une forteresse que les autres vont venir assiéger, c'est une chose qui me terrifie parce que du coup c'est le monde entier qui partira là.
Merci Sharif Majdalani.
Merci à vous Emmanuel.
Bon week-end à vous à Beyrouth Sharif. Le roman de Sharif Majdalani, Dernière Oasis, est paru en poche chez Babel. Avant de parler de l'âge, de la vieillesse et du temps qui passe avec Agnès de Sarthe, voici Étienne Dao avec Vanessa Paradis dans la librairie francophone.
Rouler la nuit entière aux portes du désert, à la frontière de nos interdits. Interdits. Surfer sur une mer légère quand la nuit éclaire nos folies ordinaires. Tu m'as dit oui. Sur les étoiles, la nuit nous appartient. Wow. Première étreinte au matin pâle.
appartient. Puis au matin mettre les voiles. Plus rien ne nous retient. Viens plus près. Tendrez la nuit. Sur les lèvres, tu ironises suspense. Tirer la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient. Au matin pâle, lis ton destin au mien.
Étienne Dao et Vanessa Paradis avec Tirer la nuit sur les étoiles.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Bonjour Agnès de Sarthe.
Bonjour.
Votre nouveau roman, Le Château des Rentiers, est à la fois un hommage à vos grands-parents et une réflexion sur la vieillesse. Tzila et Boris, immigrés juifs rescapés de la guerre, ont apprécié de vieillir car ils ont beaucoup souffert par le passé. Aujourd'hui, vous dites que contrairement à eux, à vos grands-parents, notre génération a tout à perdre en vieillissant.
Oui, c'est l'impression que j'ai parfois, que la vieillesse est une malédiction, que ça vous tombe dessus, comme quelque chose d'ailleurs à quoi vous attendez pas du tout. Ah, je peux plus bouger, je peux plus faire ça, etc. Comme si personne vous avait prévenu. Je me suis demandé en fait, c'était quoi la différence finalement avec ces gens qui ont été mes grands-parents. Et je voyais qu'il y avait le sentiment d'être un rescapé, un survivant, outre le fait que ça vous met dans une situation de culpabilité épouvantable. Ça a quand même des effets positifs qui sont que chaque minute est une minute de gagner. Donc vieillir, c'est une chance.
Ouais.
Parce que ça, c'est un peu moins le cas pour nous.
Le château des Rentiers, en tout cas, c'est le lieu où ont vécu vos grands-parents. Ils ont choisi un immeuble où il y avait de la vie et des gens modestes comme eux. Il y avait des réfugiés comme eux. Ils ont créé une communauté quelque part.
Ils ne sont pas arrivés, il y avait déjà tous ces gens. C'est en fait eux qui les ont amenés. Parce qu'ils ont acheté un appartement sur plan dans les années 70 et ils ont dit à leurs amis de jeunesse de venir s'installer à côté d'eux. Donc c'est devenu, ça a formé une sorte de coloc géante.
Oui.
Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont quand même vieilli tous ensemble.
Oui. Alors c'est ce qui vous a donné l'idée, Agnès de Sarthe, de faire construire un bâtiment communautaire avec vos amis pour vos vieux jours, vous le racontez en filigrane comme ça. Ça semble être devenu une obsession, en tout cas dans le récit, c'est ça? C'est toujours le cas?
Dans le récit. Alors souvent, j'écris des livres pour éviter de faire des choses qu'il faudrait mieux pas que je fasse. Quand j'avais écrit Mangez-moi en 2006, j'étais au bord d'ouvrir un restaurant. Et je me suis dit, sauve-toi, écris le livre à la place. Si tu vas être trop crevé si tu ouvres un restaurant.
Et là, vous êtes en train de...
Alors là, peut-être que je me suis dit, oh zut, je vais devoir... Je suis pas une grande entrepreneuse. Mais je sentais que j'avais cette pulsion d'organiser tout ça, mais... Est-ce que j'ai vraiment envie d'organiser les choses? J'ai entendu que Mathieu, le cher libraire qui est en face de moi, a déjà un plan. Lui, je vais peut-être me greffer sur son plan. Je suis pas sûr.
Ah oui, il a un plan
en Corse,
lui. Oui, c'est ça.
C'est un peu confidentiel. Quand même.
Voilà, c'est public. Avis aux amis de Mathieu qui pourront s'adresser à lui très prochainement à Aix-en-Provence. Mais vous avez l'intention de le faire ou pas? Non, c'est pas sûr.
Ah bah qui sait. Ça me tente.
Ça commence mal. Hein.
Non,
ça,
mais
à mon avis, c'est foiré, hein, comme on dit.
Mais pas du tout. Vous verrez.
Bon, vous confiez. En tout cas, dans votre livre, un peu votre enfance, votre jeunesse. À l'âge de 8 ans, vous imaginez qu'à 17 ans, vous serez blonde aux cheveux raides avec une voiture décapotable.
Oui.
Pas du tout, vous avez les cheveux bruns, bouclés, châtains et pas de voiture décapotable.
Non.
Arrivé à l'âge de 17 ans, vous prenez un autre modèle, une amie très jolie. Vous vous habillez comme elle, mais vous ressemblez plus, je cite, à une brave fille de ferme qu'à une princesse.
Oui, voilà, c'est toujours ça mon truc, c'est que l'idéalisation... Je suis impeccable pour idéaliser, vraiment. J'ai beaucoup d'imagination et j'aime beaucoup admirer. Après, dans la réalisation, je suis moins bonne.
Oui.
C'est pour ça que je pense confier la réalisation de mon château des rentiers personnels peut-être à quelqu'un d'autre.
Et à 19 ans, Agnès, vous ressemblez à une célèbre chanteuse. Annie Lennox, ouais. d'Eurythmics.
Oui, je voulais devenir Annie Lennox.
C'est vrai ? Avec ouais. les cheveux très courts, blonds.
Ouais, peroxydé. J'imaginais que j'allais enseigner l'anglais à mes élèves et que j'allais être comme ça, tout en cuir.
Ouais, une petite crête aussi.
Oui, une crête, ouais.
Mais vraiment, vous avez pensé ça ?
Oui.
Ouais.
Ouais, ouais. Alors, bon,
non,
j'ai
vous dites
eu,
ça
j'ai
comme
eu,
si c'était normal.
J'ai eu les, bah, pourquoi pas ? J'ai eu les cheveux très courts, mais c'est pas allé plus loin. J'ai pas peroxydé. Je ne vais pas tant ressembler que ça, finalement.
À 24 ans, vous décidez de devenir écrivain. Votre troisième roman, en 1998, « Cinq photos de ma femme », vous emmène dans un festival littéraire à Édimbourg, en Écosse. Et là, vous vivez un traumatisme, Agnès, qui va vous suivre tout le reste de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à Édimbourg ?
Je me fais agresser. Je me fais agresser par une vieille dame.
Verbalement.
Oui, mais c'est presque aussi fort qu'une agression physique. Et en fait, le livre que j'avais écrit, « Cinq photos de ma femme », avait pour personnage principal un homme de 80 ans. Et elle, à la fin de la rencontre, elle m'a hurlé dessus en me disant que j'avais pas le droit d'écrire ça, que je savais pas de quoi je parlais, que j'avais pas 80 ans, que je parlais de la guerre, j'avais pas vécu la guerre, j'avais pas le droit. Et j'étais très calme pendant qu'elle me parlait, je voyais très bien quoi lui répondre. Et donc j'avais toute mon argumentation en tête, sauf qu'au moment de prendre la parole... Ce ne sont pas des mots qui sont sortis de ma bouche, mais un horrible vagissement de celui que poussent les vaches quand on leur arrache leur veau. Et c'était très gênant.
Non mais c'est vrai.
Mais oui, c'est vrai.
Un cri comment ?
Mais je ne vais pas vous le faire, ça va casser les oreilles des auditeurs et les vôtres.
Non mais doucement, ça fait quoi ?
Quelque chose comme ça.
Merci Agnès de Sartre pour nos archives.
Vous l'avez bien préparé celle-là. Et donc ce cri que j'ai poussé, mais en beaucoup plus fort, s'est accompagné de larmes qui coulaient à l'horizontale comme dans les meilleurs dessins animés.
Oui. Et
ça a duré, je ne pouvais plus parler, j'étais devenue aphasique. C'est bien pratique quand on est interviewé sur une scène de festival.
Bon, on va voir du côté de nos libraires avec Mathieu Colombe, dont vous avez révélé un secret à l'instant. Pour La France, ne vous vengez pas, mais qu'avez-vous pensé du Château des Rentiers d'Agnès de Sarthe ?
Alors, au départ, je me suis dit, ah non, pas encore une autofiction. Bon, cette fois-ci, ça va saigner. C'est à peu près ce que je me suis dit, en attaquant le Château des Rentiers.
Alors voilà. C'est une pièce de théâtre aujourd'hui, cette émission.
Bon, le problème, c'est que ça coule tout seul, en fait. La fluidité du texte fait qu'on le lit avec une aisance désarmante. Et en plus, j'étais impressionné par le fait que, en partant des problématiques quand même qui sont très personnelles, on arrive à toucher un peu à l'universalité. Bref, ça marche très très bien. C'était un très bon moment de lecture, merci. Bien.
Merci à vous.
Alexandre Dimitrievitch en Suisse, êtes-vous d'accord, le Benjamin de la bande ?
Ouais, le Château des Rentiers. Pas du tout. Le Château des Rentiers, lui, c'est un livre qui m'a vraiment captivé. Vos anecdotes sont mises en récit avec beaucoup de talent et le cheminement de votre histoire est tout à fait naturel. C'est très divertissant et j'ai beaucoup rigolé. Je trouve que vous jonglez habilement entre humour et sérieux. Pour ma part, je dirais pas que j'ai patiemment vieilli à votre lecture, mais plutôt que j'ai une belle idée de ce que le temps fait vivre aux relations amicales, au corps et à notre place dans la société.
On rigole, pas tant que ça, mais...
Si on prend le second degré.
Ouais.
C'est-à-dire que les sujets, ils sont pas absolument désopilants tout le temps.
Non.
Il est question des camps d'extermination, il est question de la dégradation du corps, il est question de... En fait, il est question que de trucs horribles.
Ah bah oui, avec le témoignage en plus de personnes,
oui,
on va y venir.
Oui, tout à fait. En fin de vie.
Oui.
Mais
pas tous.
Mais moi, j'essaye que ça reste léger.
Bien, le Canada, elle est très préoccupée par l'âge, je crois. Josiane Letourneau.
Oh, ben, elle est bonne, celle-là.
Mais quoi? Mais non, mais on est tous préoccupés par l'âge, c'est pas...
Je suis absolument pas préoccupée par l'âge. Je comprends pas
D'accord.
ce que vous dites.
Alors.
Agnès de Sarthe, je vais m'adresser à vous. Vous n'avez cessé tout du long de me surprendre dans ce livre. Chaque chapitre offre un point de vue, une facette, un angle que vous n'avez pas exploité avant. Et je trouve que c'est pas une mince affaire de réussir à faire ça. Vous m'avez touché. Vous m'avez fait rire beaucoup.
Oui.
Vous m'avez fait réfléchir. Vous m'avez bousculé. Bref, vous avez fait tout ça avec un charme désarmant. J'ai découvert, en fait, entre les lignes, une personne certainement formidable et unique, doublée d'une écrivaine de grand talent. Donc, merci pour ce livre merveilleux que j'aurai grand plaisir à conseiller.
Voilà, l'avis de nos libraires. Félicitations à Agnès de Sarthe.
Merci.
Sur le chemin de François Bégodeau par rapport au compliment. Alors, c'est vrai qu'il y a un humour noir, on pourrait dire, parce que vous racontez des anecdotes.
Mmh.
Il y a cette histoire à l'âge de 45 ans, vous êtes enceinte, vous le confiez, et le médecin que vous allez voir vous demande ce que vous avez fabriqué. Il insiste, il dit « Mais qu'est-ce que vous avez fabriqué ?»
Ouais.
Il dit « Mais quoi, à 45 ans, comment vous pouvez tomber enceinte ?» Et il vous dit une phrase horrible, qui fait presque sourire, mais c'est horrible. Il vous dit, on ne va pas le laisser pourrir là-dedans.
Voilà, oui, c'est une phrase qu'il a répétée deux fois au cours de l'examen. Et... mais c'est vrai.
Mais c'est vrai.
Oui, sans me regarder. Et ça, c'était mon coup de gueule à moi, puisqu'après tout, les libraires ont leur coup de gueule, et les femmes aussi ont leur coup de gueule. Et parfois, on est traité moins bien que des animaux, c'est-à-dire on ne nous regarde pas, et on nous méprise, et on est jugé très sévèrement, et la maternité est parfois compliquée.
Et cet enfant est né, et tout va bien.
Ah, elle est magnifique. Ouais, pas du tout pourrie. Hein. Non.
Bon, c'est vrai que vous portez tout au long de ce livre des réflexions sur l'âge, sur les changements physiques aussi, ça semble beaucoup vous préoccuper. Vous écrivez « J'ai l'impression de m'être endormi dans un corps et de m'être réveillé dans un autre, et ça s'est produit d'un coup.
» Ouais. Alors, je suis peut-être la seule à qui ça arrive, hein, mais je crois pas, parce que j'ai entendu d'autres personnes s'en plaindre. Le fait que tout à coup, une épaule, on lève le bras pour accrocher quelque chose, et... Non, ça s'est arrêté à mi-course. Je vois François Bégodeau qui hoche la tête. Mathieu hoche la tête. Alors, Emmanuel n'est pas du tout concerné.
Mais lui, pas du
tout. Il ne coince de nulle part. Non. Il est d'une jeunesse éternelle. Mais bon, il y a toujours des exceptions. Mais en fait, oui, le corps vous apprend qu'il y a des limites et qu'il va changer ou qu'il est en train de changer alors que vous avez exactement les mêmes projets, le même geste. Voilà.
Au cours de ce livre, Agnès, je le disais, on peut lire des témoignages de personnes qui ont entre 37 et 102 ans. J'ai relevé le plus jeune à 37 ans, le plus ancien à 102. Il y a Linda, 95 ans, qui a 5 enfants et 14 petits-enfants, qui semble heureuse. Elle dit « Tout le monde s'entend bien, tout le monde est gentil avec moi ». C'est très beau à lire. Bernard, 76 ans, qui lui est fâché avec tout le monde, avec ses amis, sa famille, ses enfants. Il dit « C'est des cons, je préfère rester seul ». Et il y a de telles différences dans la façon de vivre ces vieux jours qu'on se dit qu'est-ce qu'on va devenir effectivement, mais quelles leçons en avez-vous tiré, vous ?
Alors c'est vrai que les témoignages étaient volontairement disparates. Je voulais pas qu'il y ait un unisson sur vieillir c'est merveilleux, vieillir c'est comme ci, vieillir c'est comme ça. Je les ai pris comme ils venaient. À un moment, il y en a un qui dit les yeux sont de plus en plus vieux.
Oui.
Ce que je trouve extrêmement parlant.
Ou les vieux sont trop vieux.
Oh, les yeux sont trop vieux. Mais ça, il y a une réalité. Il y a une réalité sociologique, une réalité médicale. Et donc, ça devient presque une question écologique. Effectivement, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire pour pas emmerder le monde, pour pas emmerder nos enfants, pour pas... Là aussi, je me dis que si je peux poser la question et essayer de donner à d'autres personnes l'envie d'y répondre, ça me va.
Bien. Bah, vous allez partir avec Mathieu dans sa collectivité.
Mais il ne veut pas de moi, je
maison
crois.
Maison communautaire.
Ça suffit.
Merci beaucoup, Agnès de Sarthe.
Merci à vous.
Pour votre générosité, votre sympathie aussi. Le Château des Rentiers est paru aux éditions de l'Olivier. Pour conclure, le son de l'Outre-mer avec le groupe de reggae calédonien Inou.
Esmeralda, c'est un...
extrait de Tekitoa du groupe Inou, originaire de Nouvelle-Calédonie.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute Genève-Lausanne, le temps de parcours entre Rolles et Morges-Ouest en direction de Lausanne est allongé d'une heure environ à la suite d'un accident. Et dans la direction opposée, on compte une quinzaine de minutes de retard entre Morges-Est et l'aire de service de Saint-Pré.
Et c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve sur Facebook, Instagram et X pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Guillaume Ficheux. À la rédaction, Jean-Philippe Véret et Christophe Magère de France Inter avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, nous serons à La Réunion pour une séquence spéciale en déambulation à Saint-Pierre, au bord du Lagon, dans le cadre du festival Athéna. Et aussi en studio avec Mazarine Pinjot et Isabelle Corna. Passez un très bon week-end, une bonne semaine. À bientôt, salut.
Librairie francophone, Emmanuel Guérad.
La première vous offre l'heure.
Il est 18h sur la première, voici Forum.